74 points. C'est Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
La combinaison gagnante du Quintet Plus, 6, 4, 17, 8 et 13. Quintet Plus à Auteuil, je vous rappelle que le 2 et le 16 étaient non partants. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et oui, et c'est avec Patrice Gélina, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des plus grandes mystifications de l'histoire littéraire, le prix Goncourt 1975.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ».
Ans d'histoire. Il y a bientôt 30 ans, vous venez de l'entendre, Armand Lanoux révélait le nom du lauréat du prix Goncourt 1975. Émile Ajar n'était pas un inconnu puisque son premier roman, écrit un an plus tôt, Gros câlin, avait été bien accueilli par la critique. Mais personne encore n'en avait vu l'auteur et pour cause, Émile Ajar n'existait pas. À part une poignée d'initiés, tout le monde ignorait que derrière ce pseudonyme se cachait en réalité Romain Gary, qui en 1956 avait déjà reçu le Goncourt pour Les Racines du Ciel et qui avait écrit un jour « L'homme n'a qu'une vie, mais il est fait pour la vivre au moins deux fois ». C'est ce qu'a fait Gary en inventant Émile Ajar et en recevant grâce à lui deux fois le Goncourt sous deux noms différents. Le véritable auteur de « La vie devant soi » faisait aussi un magnifique pied de nez à la critique littéraire qui encensait Émile Ajar en même temps qu'elle éreintait Romain Gary, sans savoir qu'il s'agissait d'un seul et même écrivain, celui qui en 1945 était entré dans le monde des lettres par la grande porte et avec un premier prix littéraire.
Le prix des critiques a pour objet moins de sanctionner une réputation déjà acquise que de découvrir autant que possible un talent nouveau. Nous pensons avoir très bien fait en décernant pour la première fois cette année notre prix à Romain Gary pour son très beau livre « Éducation européenne ».
Et puisque le lauréat a rejoint les membres du jury, nous allons lui poser quelques questions. Il est là près de nous en uniforme d'aviateur. Voyons, je vais vous demander, où avez-vous écrit votre livre ?
J'ai écrit mon livre en Angleterre, en 1943, alors que je me trouvais en opération contre l'Allemagne avec le groupe de bombardement léger Lorraine. Mais je tiens à préciser que je fais œuvre d'imagination et non pas de reportage. Et j'ai essayé de faire pour le mieux pour retrouver la vérité.
Myriam Anisimov, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était la première fois, je crois, qu'on entendait la voix et le nom de Romain Gary à la radio en 1945, l'année de son premier roman, de son premier prix littéraire. Romain Gary, auquel vous venez de consacrer une biographie très complète, très importante, mais qui a dû être difficile à écrire parce que, au fond, c'était un homme avec de multiples facettes. D'abord, il se dissimulait tout le temps et puis il a eu des quantité d'activités, vous êtes allé un peu partout où il est passé, quand il était aussi bien écrivain que diplomate aux États-Unis, en Europe, et puis aussi, ça il y tenait beaucoup, officier de la France libre, hein. D'ailleurs en 1945, on l'a entendu, quand il reçoit son prix, il porte encore l'uniforme.
Oui, alors, c'était pas si difficile que ça, parce que pour tout ce qui était les faits d'armes ou les postes diplomatiques de Gary, il existe des archives. Donc il était très simple pour moi, dans la mesure où le fils de Romain Gary m'avait fait confiance et m'avait donné des dérogations pour atteindre ces archives, pour les lire, c'était pas si difficile que ça. En revanche, ce qui était difficile, c'était de retrouver tout ce que Romain Gary avait lui-même cherché à dissimuler, et notamment tout ce qui concernait sa petite enfance, sa naissance, sa petite enfance et disons sa vie jusqu'à l'âge de 12 ans.
Quand il s'appelait Romain Katsev, hein, Gary.
Romain Katsev.
Romain Katsev, d'ailleurs c'est un pseudonyme, Gary, dès le départ. Oui. Il choisit ce nom. On a l'impression que son enfance lui fait un peu peur. Il la transforme un peu. Alors il en parle notamment dans un de ses plus célèbres romans qui est La promesse de l'aube, qui est la promesse qu'il fait à sa mère, qui a joué un rôle considérable, Myriam Anisimov. Au
au fond, il se dissimule, il parle de lui dans ses romans et en même temps, il se cache.
Oui, mais pour ce qui concerne son enfance, il est clair que Gary a vécu des choses extrêmement tragiques dans sa vie de petit garçon et qu'il pensait, et c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, que ces choses-là ne pouvaient peut-être pas être comprises par tout le monde. Il est né dans le Yiddishland, à Vilno, dans la partie russe de la Pologne, puisque ça faisait partie de l'Empire russe au moment où il est né, pendant la première année de la guerre de la Grande Guerre, de la guerre mondiale. Et très petit, il a été déporté par les Russes avec sa mère en Russie, à l'intérieur de la Russie. Et il a connu une enfance extrêmement chaotique, au moins jusqu'à 7 ans.
Alors, on peut pas dire en 25 minutes tout ce qu'il y a dans votre livre, Myriam Anisimov. J'aimerais qu'avec vous, on parle surtout de cette affaire, au fond, comment on l'appelait, l'affaire de cette mystification qui a été Émile Ajar. Avec quelqu'un qui ne s'est pas tellement étonnant, au fond, quand on vous lit ce qui s'est passé en 75, n'a rien de très surprenant, parce qu'on s'aperçoit que c'est quelqu'un, Gary, qui a constamment changé de peau, changé d'identité, à bien avant l'affaire Ajar. Écoutez justement cet entretien à la radio avec André Bourin en 1969.
Vous avez déjà changé de peau souvent. Vous me l'avez dit, vous l'avez montré d'ailleurs. Vous avez été officier, écrivain, cinéaste, etc. Est-ce que vous envisagez de changer encore une fois de peau?
Je me suis aperçu, coïncidence extrêmement curieuse, que je tends à changer maintenant beaucoup plus de costume que de peau. Et je me demande si ce n'est pas la forme d'une certaine résignation devant le fait qu'il me reste extrêmement peu de peau que je pourrais adopter. Je n'ai plus tellement dans l'imagination de formes d'existence auxquelles j'aurais voulu goûter en devenant un autre personnage. J'ai quand même fait le tour.
Oui.
J'ai mangé à tous les râteliers, j'aurais vraiment très peu de nouveaux moyens de communication avec l'existence. En ce moment-là, j'ai surtout envie d'écrire, de créer.
C'est étonnant ces propos de Gary Myriam Anisimov en 69, c'est-à-dire 6 ans avant l'affaire Ajar, avant qu'il invente, au fond, l'écrivain Émile Ajar. Qu'est-ce qui l'a poussé en 1974 à cette mystification littéraire? Est-ce que c'est pas... Il avait le goût du canular, il était beaucoup d'humour aussi.
C'est une idée, en fait, qui n'est pas neuve. Gary avait déjà essayé par 2 fois de créer un écrivain fictif, mais ça n'avait pas marché. Il a essayé une première fois quand il était porte-parole de la délégation française à l'ONU en 1952, quand il a écrit L'homme à la colombe. Il a demandé à un ami, un diplomate bulgare, Pierre Ouvaliev, de jouer le rôle de signer le livre. Alors finalement, ils ont préparé un contrat et ça n'a pas vraiment marché, cette histoire-là.
Mais pourquoi ?
Et bien là, il y avait une raison objective, c'est-à-dire que Gary redoutait les foudres du Quai d'Orsay, puisque dans ce livre, il se moquait du monde diplomatique. La deuxième fois, il a écrit un polar qui s'appelait Chatham Bogart, qu'il a signé Chatham Bogart, Les Têtes de Stéphanie, qui est un livre futuriste, puisqu'il se passe pendant une révolution islamique, vous rendez compte, au Proche-Orient, et il raconte l'histoire d'un mannequin qui part faire des photos de mode, qui s'endort dans son jet et qui se réveille une heure plus tard. Elle est la seule vivante, tous les autres passagers ont la tête coupée.
Là encore, pourquoi? C'était parce qu'il était diplomate?
Non, là, il n'était plus diplomate, et c'était pour voir comment serait accueilli un genre nouveau, c'est-à-dire un polar signé d'un autre nom. Et quand il s'est aperçu que ça ne marchait pas très bien, il a révélé qu'il était l'auteur du livre.
Alors, en 1974, donc, il écrit... Alors, au moment où il écrit sous le nom d'Émile Ajar, il faut rappeler, vous le rappelez, Myriam Anisimov, il est éreinté par la critique. Enfin, il est éreinté. Disons que la critique qu'il encensait en 1945 se détache de lui. On préfère, il n'est pas à la mode, on préfère le nouveau roman, on préfère Robe Grillée, on lit beaucoup plus souvent Barthes ou Solers. On ne l'aime pas beaucoup. En plus, il est gaulliste. Hein,
c'est surtout ça.
C'est surtout ça. Hein. Oui. Alors évidemment, les critiques littéraires de l'époque n'aimaient pas beaucoup ça. Est-ce que c'était pas aussi pour prouver, pour en employer d'ailleurs une formule d'un titre de Gary, que son ticket était encore valable?
Alors il y avait toutes ces choses en même temps, son désir de vivre plusieurs vies, son idée du roman total, ce qu'il appelait le roman total, c'était de créer ce qu'il appelait un auteur et son œuvre en même temps, vivant, un auteur vivant son œuvre. Et il voulait faire cette tentative encore une fois. Et en plus, c'était une façon, excusez-moi le mot, de dire merde à la critique parce qu'il avait été vraiment malmené et il n'était plus tellement lu. Et il voulait vraiment leur prouver leur sottise. Et donc, il a toutes ces choses qui bouillonnaient en lui, il les a réunies pour écrire des livres. Et c'était déjà prémédité depuis très longtemps, puisque dès qu'il commence Gros Câlin, il met dans Gros Câlin des phrases qui existaient dans ses œuvres antérieures.
Alors, Gros Câlin, il faut le rappeler, c'est avant le prix Goncourt et avant La Vie devant soi, c'est le premier roman signé Émile Ajar. Pourquoi ce nom? Pourquoi est-ce que Gary a choisi ce pseudo?
Ben là encore, c'est toujours l'ambivalence de Gary. En même temps, il se dissimule, en même temps, il souhaite être reconnu. Alors, Ajar et Gary, ça veut dire presque la même chose. L'un veut dire braise et l'autre veut dire brûle à l'impératif en russe. Et il espère que quelqu'un d'assez cultivé ou qui lit un peu de russe va dire « Mais voyons, c'est la même chose ». De la même manière, il espère que les phrases de Gary qu'il a parsemées, qu'il a dispersées dans l'œuvre d'Ajar vont être reconnu par les lecteurs.
Alors, qui était au courant? Parce que ça, cette affaire, elle est restée secrète jusqu'après la mort de Gary.
Finalement, beaucoup de gens. Alors, bien sûr, Jean Seberg, son ex-épouse, mais qui vivait assez près de lui, son fils Diego, la gouvernante de Diego, Eugenia. Bien sûr, Paul Pavlovitch, le petit cousin de Romain qui va jouer le rôle d'Ajar, qui va l'incarner, Annie, sa propre femme.
C'est étonnant, et tout ce monde-là a réussi à garder le secret.
Attendez, il y avait encore une ou deux petites amies de Romain, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, même quand des gens murmuraient, avaient l'intuition que, comme Jacqueline Piatier du Monde, eh bien, Gary était tellement méprisé qu'on disait, il ne peut pas être ce génie, ce jeune auteur plein de talent, ce n'est pas possible. On pensait plutôt à Aragon. Alors, Raymond Queneau.
Alors, Gros Câlin, justement, a été salué par les critiques, qui en même temps démolissaient Gary pour d'autres livres, mais ils trouvaient Gros Câlin, signé Émile Ajar, très bien. Ensuite, évidemment, le succès de Gros Câlin va pousser Gary à écrire un deuxième livre, qui sera donc La Vie devant soi. Tout le monde parle de cet auteur, mais personne ne le connaît, et pourtant, La Vie devant soi reçoit donc le prix Goncourt le 17 novembre 1975.
Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi.
Nous avons en ligne en ce moment Michel Courneau, qui est le directeur littéraire chez l'éditeur d'Émile Ajar. Alors Émile Ajar, c'est un personnage dont on parle beaucoup, dans la mesure, surtout, il est pratiquement inconnu. Sans nous dire qui il est exactement, vous pourriez peut-être quand même définir le personnage.
Définir, oui, c'est un garçon qui a 35 ans environ, c'est un homme très attachant et timide, qui est né en France et qui est donc français. Sa maman était une Yougoslave avec des descendances juives et son père était, je crois, du Proche-Orient.
Alors pourquoi ce besoin de mystère?
Vous savez, ce n'est pas un besoin de mystère, c'est un droit absolument reconnu par la loi, par exemple, sur la propriété littéraire, c'est le droit à l'anonymat.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais? Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi.
France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le prix Goncourt 75, attribué justement à quelqu'un qui n'existait pas, comme le chanteur 75 Joe Dassin, c'est-à-dire à Émile Ajar. Et pourtant, on l'a entendu dans l'archive qui précédait, on décrit très précisément le personnage. Michel Cournot, qui est le directeur littéraire du Mercure de France, qui a été publié La vie devant soi, dit il a 35 ans, c'est un Yougoslave. En fait, tout ça, c'est de la mystification.
Tout à fait, c'est-à-dire que Romain Gary avait demandé à son petit cousin, le fils de sa cousine Dina, d'aller rencontrer ses éditeurs, Simone Gallimard et Michel Cournot, pour prouver qu'il y avait bien un auteur qui existait, qui avait signé cette œuvre, puisqu'on parlait de l'attribuer.
Ce petit cousin, justement, c'est Paul Pavlovitch. Oui. Personne ne l'a rencontré, mais enfin si, en fait, c'est celui auquel Gary demande de jouer le rôle de Ajar.
Absolument.
Mais quel est son rôle? Parce qu'au fond, on aurait pu se contenter de Gary et des quelques personnes qui étaient au courant au Mercure de France. Personne n'était au courant.
Non, et seul.
Quel était le rôle de Pavlovitch, son petit cousin et pas son petit neveu?
Non, la seule personne qui était au courant de tout, c'était Robert Gallimard, oui, à qui Romain avait tout dit depuis le début et à qui il avait fait jurer le secret. Et donc, Simone Gallimard était parfaitement de bonne foi. Et donc, comme on voulait attribuer un prix à cet auteur, il fallait prouver qu'il existait bien. Et donc, Romain Gary a demandé à son petit cousin d'aller jouer le rôle de Émile Ajar auprès de ses éditeurs.
Alors, il prend des précautions, Gary, hein. Il fait, par exemple, signer à Paul Pavlovitch, donc à son petit cousin, il lui fait signer une déclaration affirmant, justement, qu'il n'est pas l'auteur, parce qu'il a peut-être peur que Paul Pavlovitch dise, bah non, finalement, c'est moi qui ai écrit La vie devant soi. Alors, il y a ce texte que vous citez. À Paris, le 3 juin 1975, aujourd'hui 3 juin, j'ai reçu de Romain Gary le manuscrit du roman dont il est l'auteur. Je m'engage par la présente à assumer devant l'éditeur, le public et la presse le personnage de l'auteur Émile Ajar, pseudonyme que Romain Gary a adopté. Il ajoute, je m'engage sur l'honneur à ne divulguer la véritable identité de l'auteur qu'avec l'accord de Romain Gary ou de ses exécuteurs testamentaires. Ça, c'est ce que signe donc Paul Pavlovitch, le petit cousin qui a donc joué le rôle un peu d'un écran de fumée, en fait.
Oui, et puis, bien sûr, vous savez, la tentation de Romain Gary de jouer le démiurge, c'est une vieille tentation humaine, mais elle lui a échappé quand même.
C'est pas commode quand même pour ça.
Ouais, on peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Donc Romain Gary n'a pas pu contrôler Paul Pavlovitch. Il n'a pas pu contrôler toute la suite des événements. Oui. Et finalement, il a été obligé de s'adapter aux circonstances qui le dépassaient. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a écrit pseudo, d'une certaine manière, pour alléguer l'existence d'Ajar.
Quand Pavlovitch obtient le prix, Gary refuse de dévoiler sa véritable identité. Alors en revanche, il accepte, comme le lui demande Robert Gallimard, de renoncer au prix Goncourt, 3 jours après l'avoir reçu, ce qui met en colère, bien sûr, le président de l'Académie Goncourt, Hervé Bazin, le 20 novembre 1975.
Premièrement, nous ne considérerons le refus de M. Ajar comme réel qu'en recevant une lettre du dit M. Ajar à signature dûment légalisée. Deuxièmement, l'Académie vote pour un livre, non pour un candidat.
Vous pensez donc qu'il s'agit là maintenant d'une opération publicitaire?
Troisièmement, le prix Goncourt fournissant précisément à son élu une audience considérable et son refus une publicité supplémentaire, l'Académie se rappelant que les deux lauréats précédents qui ont refusé le prix Goncourt ont tout de même encaissé les droits d'auteur, conseille à M. Ajar de refuser le bénéfice également.
Alors c'était Hervé Bazin, donc le président de l'Académie Goncourt, hein, qui est furieux au fond que on refuse le prix. Alors il sait pas très bien qu'il refuse au fond.
Il n'est pas dupe surtout. Il n'est pas dupe. Il a raison puisque Gary n'enverra pas de lettre parce qu'il est très content d'avoir pour la deuxième fois le prix Goncourt.
Ça s'est jamais fait. Et par d'avoir Berné. C'est un auteur nouveau.
Voilà. Robert Gallimard lui a demandé de renoncer vraiment, mais il n'en était pas question. Il était très ravi d'avoir Berné tout le monde jusqu'au bout, donc il n'a pas envoyé cette lettre, et il a encaissé effectivement les droits d'auteur. Mais ça, c'était les ventes de son livre. Il n'y avait rien d'illégal
là-dedans. Mais là-dedans, Pavlovitch qui servait, parce que c'était signé Ajar,
Mais Pavlovitch, là-dedans, il touchait aussi les droits d'auteur.
Oui, Romain Gary ne l'avait pas abandonné, et donc ils avaient signé un contrat au terme duquel Paul Pavlovitch recevait 40% des droits d'auteur des œuvres d'Émile Ajar.
Alors, à l'époque, hein, quand il reçoit le Goncourt, quand Ajar reçoit le Goncourt, personne ne l'a encore rencontré, et puis on découvre, non pas que c'est Gary, ça on ne le saura jamais pendant 6 ans, mais que c'est donc ce Paul Pavlovitch. Il y a une espèce de course-poursuite, une enquête extraordinaire menée par des journalistes qui finissent par découvrir que Ajar, c'est Pavlovitch. Personne ne sait que c'est encore Gary, mais c'est Pavlovitch, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que Jacques Bouzeran, qui était journaliste au Point, va reconnaître sur une photo Pavlovitch avec lequel il était au lycée à Cahors. Et donc, il prend sa voiture et il va chez Pavlovitch à Cagnac-du-Causse pour lui dire « je t'ai reconnu ». En gros, c'est ça qui s'est passé.
Alors on découvre donc, alors ce Pavlovitch accorde des entretiens, on ne parle toujours pas de Gary, cela dit on découvre quand même que Pavlovitch donc est le petit cousin de Romain Gary. France Inter, Jean-Pierre Elkabbach, le 21 novembre 1975.
Le Goncourt Émile Ajar n'est plus un inconnu, il s'appelle Paul Pavlovitch et il vit près de Cahors. Un homme le connaît bien, Émile Ajar en tout cas, son oncle, Romain Gary.
Mettez-vous à la place d'un garçon jeune qui a un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire, dans des conditions publicitaires, dans des conditions de produit, un produit Romain Gary qui ne lui plaît pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image.
Que croyez-vous qu'il va devenir des ménageurs?
Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire.
On a parlé de rewriting à propos du livre d'Émile Ajar.
Merde.
Et c'était Romain Gary, hein, qui, je crois que c'était le 21 novembre 75. Ce merde, là, vous en parlez, il est furieux. Peut-être qu'il sent qu'on commence à se douter que c'est lui, en fait.
C'est un comédien extraordinaire, Gary. Il pense rien de ce qu'il dit, bien entendu. Et celle qui va vraiment l'acculer, c'est Jacqueline Piatier, qui dirigeait la rubrique littéraire du Monde et qui, un jour, va lui demander de signer un papier de certifiant qu'il n'est pas Émile Ajar. Et il va la recevoir à 11h du soir chez lui, habillé avec une djellaba, enfin tout à fait grimé et costumé comme il aimait le faire, et il lui tend un papier où il y a écrit qu'il n'est pas Émile Ajar.
Écoutez sous les yeux, j'affirme que je ne suis pas Émile Ajar et que je n'ai collaboré en aucune façon aux ouvrages de cet auteur.
Oui, mais qu'est-ce qu'il met en dessous, en tout petit? Et si c'était pas la vérité, je dirais la même chose.
Oui. C'est extraordinaire. Et moi, ce que je trouve fabuleux, Myriam Anisimov, surtout, c'est que ça ait pu tenir aussi longtemps. Parce que il a continué à écrire, et écrire sous son nom et sous celui d'Émile Ajar. Il écrit par exemple un livre qui s'appelle Pseudo, et où il indique, signé Ajar, et où il indique au fond ce qui s'est passé. Et
absolument.
Personne n'a fait le rapprochement.
Mais oui, ce qui prouve l'aveuglement de la presse et des gens, quand un mythe est créé, c'est très difficile de le détruire. Très difficile.
Alors, on aurait pu croire Gary très content, au fond, d'avoir joué un tour extraordinaire à la critique littéraire, au milieu, au parisianisme littéraire de l'époque. Pas du tout. Vous dites, au fond, que cette affaire l'a miné. D'abord, elle l'a poursuivi jusqu'à sa mort, peu de temps après. Il est mort 6 ans après. Bon, il y a eu aussi, vous le rappelez, le drame du suicide de Jean Seberg. Il en était séparé, mais il était évidemment très affecté par ce drame. Mais c'est un homme, au fond, qui a... Ça a été très lourd pour lui. Il s'est en quelque sorte enfermé dans une logique dont il ne pouvait plus sortir avec cette affaire.
Alors, d'une part, il aurait vraiment souhaité que quelqu'un pût dire « mais c'est Romain Gary », là, la joie aurait été complète, c'est-à-dire qu'on le reconnaisse et qu'on dise enfin « mais c'est Romain Gary ».
Mais pourquoi n'a-t-il pas dit lui-même ?
Eh bien, parce qu'il attendait justement que
quelqu'un le fasse. Mais il y avait des gens au courant, vous nous l'avez dit.
Oui, mais ceux qui étaient au courant étaient tenus par le secret. Ce qu'il aurait souhaité, c'est que quelqu'un, par exemple, un autre auteur ou un grand critique ou quelqu'un dise « mais évidemment, c'est Romain Gary, le grand Romain Gary, personne ne l'a dit ». Et à part ça, ça lui posait des problèmes personnels dans la gestion, si vous voulez, de ses déclarations d'impôts, du fisc et tout ça, des problèmes pas si grand que ça, mais à cette époque-là, il était parfaitement dépressif et il a amplifié d'une façon incroyable toute cette histoire au point de sombrer dans une dépression de type mélancolique.
Aggravé, encore une fois, vous le rappelez, par le suicide de Jean Seberg en 79, son propre suicide le 2 décembre. Est-ce qu'il y a un lien entre cette affaire, ce dédoublement de personnalité au fond même avant l'affaire Ajar et ce suicide.
Je crois que Romain Gary était un grand dépressif de toute façon pendant toute sa vie et que les choses, enfin tout ce qu'il charriait depuis sa petite enfance ont pesé lourdement sur lui. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un passé tragique et qui ne se suicident pas. Donc je pense que c'était ces structures psychologiques très dépressives et en même temps qui connaissait des phases d'excitation extraordinaires qui lui donnaient des facultés de création immenses, c'est-à-dire la capacité d'écrire 2 ou 3 livres en même temps. Dans les phases d'excitation, il était très créatif, et dans les phases de dépression, il pouvait aller jusqu'à la destruction de lui-même.
Est-ce qu'il avait besoin, au fond, de cette chose extraordinaire qui était pour lui de montrer qu'il était un grand écrivain et de tromper tous les critiques, malgré la critique qui, jusque-là, conchiait Gary, mais en revanche, en étant censé à Jarre, dire la même personne. Est-ce que, sans cela, il n'a pas besoin de ça pour montrer qu'il était un grand écrivain et encore peut-être un petit peu aujourd'hui oublié au fond?
S'il souffrait, par exemple, il souffrait beaucoup de ne pas figurer dans les manuels scolaires, de ne pas figurer dans les citations du petit Robert, que personne ne le cite, que personne cite en exemple ses œuvres, qu'aucun écrivain se dise influencé par son œuvre. Non, il était vraiment, il avait l'impression d'une grande injustice.
Ben en tout cas, vous rappelez qui était, et très bien, qui était justement Romain Gary, Émile Ajar, dans votre livre, Myriam Anisimov, un livre très complet, donc qui a été publié récemment chez De Noël, Romain Gary, le caméléon. Ça tombe bien avec le sujet que nous avons évoqué. Je signale aussi que toute l'œuvre de Romain Gary est éditée chez Gallimard. Vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Clotilde Thomas et Julien Chabassu, documentation Virginie Bloclenet et Claire Tesser, réalisation Anne Kobilac. Le programme de la semaine prochaine, lundi, une affaire criminelle qui a terrorisé les Parisiens de la fin des années 90, l'affaire Guy Georges. Mardi, la bataille d'Alésia. Mercredi, septembre 39, mai 40, la drôle de guerre. Enfin, jeudi et vendredi, 2 émissions sur une des figures les plus importantes de la Révolution française, Robespierre. Bonne fin de semaine à tous et à lundi. Il est très exactement 14h30 sur France Inter.